Voilà. Écoutez, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de titre à ma prédication. Je ne peux pas vraiment mettre un titre. D'habitude, je le fais pour vous aider. Si j'en mettais un, peut-être, je vous dirais simplement, je mettrais peut-être simplement ce titre qui est celui-ci, c'est « Cherchez d'abord le royaume ». Cherchez d'abord le royaume. Ça va, d'accord ? Alors, le royaume de Dieu, évidemment, ça va. Et vous allez voir, ce n'est pas dans mes habitudes, si évidemment, de me répéter, ça oui, parce qu'il y a des choses que je ne cesserai jamais de répéter, je vous l'ai déjà dit, mais en tout cas, aujourd'hui, je voudrais faire une synthèse, ce n'était pas mon but, mais finalement, je remarque que c'est une synthèse très simplifiée, très simple, de beaucoup de choses que j'ai dit récemment, et très récemment. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas dans mes habitudes, parce que, on parle parfois d'un sujet dont on a déjà parlé, mais il y a quelques années, etc. Et là, c'est vraiment tout récent. Mais pourquoi je le fais ? Je le fais parce que je suis vraiment... je suis convaincu de devoir le faire. Voilà, tout simplement. D'accord ? Donc, aujourd'hui... Excusez-moi, je suis distrait. Non, c'est rien, t'inquiète pas, il n'y a pas que toi, il y a plusieurs va-et-vient, alors. Voilà. Et vous savez que je suis... Voilà, c'est pas... Que je n'aime pas ça. C'est mon défaut. Je ne dis rien d'autre. Bon, voilà. Sans doute aussi. Voilà. J'aime bien que tout le monde soit concentré, ou sinon ça ne sert à rien, on parle pour du vent. Bon voilà, ça va ? Des choses qu'on a déjà dites, mais j'aimerais vous les donner aujourd'hui, et je pense que ça peut faire du bien, et que ça va faire du bien à certaines personnes. Parce que je pense que l'Église, et Stéphane nous a encouragé dans un sens, moi je vais aller dans un autre sens, mais tout ça se rejoint. Je pense que l'Église passe par une espèce de fatigue, voire découragement, tiédeur dans la foi. Je dirais ça comme ça. Tiédeur dans la foi, mais tout ça un peu mélangé. Et c'est insidieux. C'est insidieux, ça veut dire que ça vient comme ça, l'air de rien. Et ça ne va pas. Ça ne peut pas rester comme ça. Déjà, quand je vois, je dis, mais regardez un peu le nombre d'absents, c'est pas possible. Et le nombre de dimanches que je dis, maintenant, il doit y avoir des raisons. Je me demande s'il n'y a pas un baptême de quelqu'un, d'une famille, enfin, je ne sais pas. Bon, mais enfin, ceci dit, voilà, il y a cette espèce de fatigue. Et donc, aujourd'hui, bien sûr, il y a plusieurs manières d'encourager. On peut botter le derrière, mais ce n'est pas ce que je vais faire. Des fois, j'aime bien de le faire. Mais je voudrais... Non plus pas. On peut encourager aussi, excusez-moi, mais bêtement, ça va aller. Vous voyez, ça c'est facile. Ça va aller, et Dieu bénit, et Dieu. Voilà, bon. Mais moi je pense que ce qui est important, c'est si vous voulez vraiment, et si l'Église veut vraiment être relevée et reprendre la course, eh bien il faut comprendre, comme je vous l'ai déjà dit, les principes spirituels qui régissent le monde spirituel dans lequel nous nous trouvons. Parce que sinon, on marche en trébuchant comme des aveugles. Et donc, je voudrais aujourd'hui que cette fatigue, elle peut être là, mais qu'elle soit vaincue. Ce découragement, cette tiédeur, que ce soit vaincu et que ça cesse. Vous voyez ? C'est vraiment mon désir. Et pour cela, je pense qu'il faut le faire intelligemment. Et donc, je vais rappeler certaines choses. Vous connaissez tout ce que je vais dire, je pense. Je vais commencer. Je voudrais vous prendre une simple illustration. C'est l'histoire d'un sprinter, d'accord ? Vous voyez, je ne sais pas comment l'appeler, moi, un sprinter, je n'ai pas les noms, mais je ne suis pas spécialiste dans l'athlétisme, etc. Mais c'est l'histoire. Et je ne veux pas prendre un exemple compliqué parce que Paul lui-même emploie ces exemples-là, donc je prends le même. Finalement. Et c'est un, mais je vais l'actualiser, on va dire comme ça. C'est l'histoire d'un sprinteur, donc quelqu'un qui sprint, qui fait le 100 mètres, quoi, voire le 200 mètres, je ne sais pas. Et voilà. Et c'est son, pardon. Oh, mais c'est pas lui. Mais c'est pas eux. C'est pas eux. C'est un autre. Enfin, je sais pas si. Peut-être il y avait un chrétien dans le tas, j'en sais rien, mais c'est un sprinteur chrétien, justement. Tu vois, c'est un sprinteur chrétien. Et Dieu, à qui Dieu promet quelque chose, il lui dit, mon fils, tu vas remporter la victoire. Tu vas gagner. Tu vas gagner. Et ce chrétien, sprinteur, entend cette parole de Dieu et dit waouh, et réjouis. Ça se passe à peu près 15 jours, cette histoire-là. Donc ça se passe à peu près 15 jours avant la grande compétition. Et il dit waouh, alléluia, il est réjoui. Et il se retrouve donc dans la joie de cette promesse de Dieu, parce qu'il sait que quand Dieu promet, il fait ce qu'il promet. D'accord ? Et donc s'ensuit une grande joie, comme je vous le dis, et puis même une grande fête, parce que, bon, voilà, avec quelques intimes, évidemment, pour se réjouir de cette victoire que Dieu a promis. Et s'ensuit aussi des grands alléluia, parce qu'un prophète est venu dans l'église et a répandu des promesses de Dieu. Vous voyez, je fais des petits parallèles, n'est-ce pas? Je suis un peu cynique, hein, mais gentiment, quoi. Voilà. Et puis, s'ensuit aussi un peu de repos bien mérité, parce que vous savez que quand on est sportif de haut niveau, l'entraînement, c'est quelque chose de canon. Moi, je me rappelle, ne fût-ce que... Bon, je n'étais pas un sportif de haut niveau, mais je sais que quand je jouais au basket, les entraînements, c'était canon. Voilà. Surtout la condition physique. Donc, s'ensuit un repos, dira-t-on, bien mérité, après ces promesses reçues. Un repos bien mérité. Et s'ensuit aussi, 15 jours après, une place de bon dernier, et non pas de vainqueur, lors de cette compétition. Et s'ensuit aussi des paroles de sa bouche. Oh, mon Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Pourquoi est-ce que tu m'as laissé là? Pourquoi est-ce que tu n'as pas tenu tes promesses? Et toutes ces histoires-là, finalement, de prophéties et de promesses, moi, je n'y crois plus. Voilà. Voilà l'histoire. Il y a une autre histoire qui est plus réelle, c'est celle des chrétiens de l'Église qui entendent des prédications tirées de la parole de Dieu, donc avec des paroles vraies et véritables, n'est-ce pas? Des chrétiens qui viennent recevoir des paroles de connaissance, qui sont vraies, qui sont pour eux, des paroles d'encouragement qui sont vraies, qui viennent de Dieu, des paroles prophétiques, et qui, suite à ça, se retournent chez eux dans la joie et remercient le Seigneur pour ce qu'il va faire, puis se reposent et attendent et ne voient jamais arriver le fruit, c'est pas le fruit d'ailleurs, on devrait dire, ne voient jamais arriver l'accomplissement de ses promesses, et puis donc, comme je dis, sont fatigués, baissent les bras et disent, mon Dieu, mais pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as abandonné? C'est quoi ces histoires de prophétie, finalement, moi? J'ai pas besoin de prophétie, et puis il y a des fois des cœurs rebelles dans l'église, etc., etc. Vous comprenez? D'accord? C'est simple, hein? Vous comprenez? Ah, ça va. Bon, j'espère qu'on enregistre toujours. Voilà. Alors, je voudrais vous prendre des versets bibliques, bien sûr, et vous dire ceci. Vous voyez, l'apôtre Paul, je vais prendre Philippiens 3, 12, enfin, j'y arriverai aujourd'hui, je vais prendre 1 Corinthiens 9, 23, et puis je vais prendre 2 Timothée 4, on va dire le verset 7, on va commencer au 6, d'accord? Je le dis à l'avance, peut-être ça ne sert à rien, je ne sais pas, j'aurais dû le dire à l'avance, mais peut-être les noter. Bon, je vais aller très vite là-dessus. Parce que vous savez bien que j'aime bien l'apôtre Paul, hein, j'en Et là, l'apôtre Paul... Oui, c'est vrai, je vais faire attention parce que j'ai l'habitude d'avoir le truc. Là. Bon, voilà. Eh bien, l'apôtre Paul, donc, je l'aime bien, vous le savez, et je vais vous citer certaines choses qu'il dit et qui démontrent comment il vit aussi. Alors, il dit ceci. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, donc de saisir le prix, d'atteindre le but, n'est-ce pas ? Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. » D'accord ? Ça montre quoi ? Ça montre que Paul, il considère sa vie comme étant... il ne considère pas sa vie comme quelque chose de statique, comme souvent on peut le vivre, nous. Une vie statique, d'attente. On attend le réveil, par exemple. Ça, c'est rigolo, hein ? On attend le réveil. Quand il sonne, on se lève, quoi. Bon, c'est un peu rigolo. On attend le réveil, on attend la gloire de Dieu, on attend la manifestation de sa puissance, etc. On attend. Mais vous voyez que Paul, c'est pas comme ça qu'il voit les choses. Il ne voit pas la vie chrétienne comme quelque chose de statique, mais il court et il dit « c'est pas que j'ai déjà remporté le but, c'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais je cours afin de le saisir ». Alors cela, c'est un encouragement pour vous tous et pour l'Église de courir afin de saisir le prix. Alors je sais que des fois, quand on est vraiment fatigué et découragé, je l'ai dit, j'ai envoyé d'ailleurs quelques petits messages, ça peut arriver, la vie fait que, puis l'ennemi fait son boulot et on est vraiment fatigué. Et alors quand on entend ces paroles-là, on n'aime pas parce qu'on dit « Ah justement, c'est vraiment pas ce que j'ai besoin d'entendre ». Mais on ne te demande pas de remporter, d'être un sprinteur professionnel, mais on te demande de ne pas baisser les bras et de te rappeler que la vie n'est pas statique. Je vais m'expliquer peut-être un peu mieux plus tard, même si ça ne va pas être une prédication avec 36 000 points, il n'y a qu'une chose, on va dire pratiquement comme ça, il n'y a qu'un point. Alors on prend le verset suivant, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 23, où Paul dit ceci, « Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. » Et puis, il reprend l'exemple, le même exemple. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ?» Bon, alors nous, on sera beaucoup à remporter le prix, normalement, n'est-ce pas ? Hein ? Déjà le salut, puis la couronne qui nous est réservée. Néanmoins, ce que Paul dit, c'est « courez de manière à le remporter ». Tu ne dois pas courir pour être un dernier. Tu ne dois pas courir pour être un suiveur. Tu ne dois pas courir pour être, enfin, je ne sais pas moi, pour être un loser, quoi, je veux dire. Tu dois courir de manière à remporter le prix. Amen. Alors, je sais que ces paroles-là, quand on est fatigué, elles peuvent un peu dire, oh, c'est pas ce que, elles peuvent, je vais dire, décourager à la limite. On va dire, c'est pas ce que j'ai envie d'entendre. Mais vous allez voir que j'ai autre chose pour vous parce que je veux, justement, et le Seigneur aussi veut vous relever aujourd'hui. Bon, mais je vais prendre encore un dernier texte, un dernier verset, 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 6b, ça veut dire que, bon, je lis ce qui m'intéresse, 6b jusqu'à, on va dire 8a, donc c'est surtout le verset 7, d'accord ? Et puis là, on voit Paul à la fin de sa vie. Vous voyez, il a parlé de cette course, et puis là, on le voit à la fin de sa vie. Ça, on oublie. Le moment de mon départ approche. Il est à la fin de sa vie. Et puis, verset suivant. J'ai combattu le bon combat. Le bon combat. Le bon combat, mes frères et sœurs. Pas le mauvais combat. D'ailleurs, il disait dans d'autres exemples, je frappe, non pas comme si je frappais en l'air, etc. Non, mais je... Vous voyez, il avait un but, Paul. Quel est ton but ? J'en ai déjà parlé, je ne peux pas me répéter, mais je me répète, mais je ne peux pas tout réexpliquer. Le but, vous comprenez ? Le but. Et c'est ça notre problème, vous allez voir. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Est-ce que tu veux dire ça un jour, le jour où tu auras fini ta vie ? Est-ce que c'est ça que tu veux dire ? C'est ça le but. Enfin, c'est pas le but, mais le but, c'est Christ. Mais C'est ce que je veux. C'est ce que tu veux, non? Je l'espère. Il n'y a que Chantal qui veut ça. Il n'y a que Chantal qui veut ça. Dire à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat dans mon lit de mort. Oh, merci Seigneur. J'ai eu des hauts et des bas, mais j'ai combattu le bon combat. J'ai fini ma course et j'ai gardé la foi. Et puis le verset suivant, le début seulement, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Je peux m'en aller. J'ai combattu le bon combat. Voilà. Alors, je vous ai lu ces trois versets-là. Je ne vais pas rester là-dessus longtemps. Mais simplement, donc je le répète, j'aimerais qu'on comprenne qu'il y a un pendant, un pas encore, d'accord ? Pendant, pas encore, il faut leur dire simplement ne pas parler pendant la prédication. Il y a des gens qui nous écoutent par Internet, c'est ça. On ne parle pas pendant la prédication à haute voix. Je plaisante, ne sois pas mal à l'aise, je rigole vraiment. J'ai même à peine remarqué, c'est vraiment, je plaisante, il n'y a pas de souci avec ça, hein, vraiment pas. Bon voilà, donc il y a un pendant, c'est ça que je voudrais que vous sachiez avec cette histoire de... Soyez pas distrait, hein, écoutez, avec l'histoire de la vie de Paul, il y a un pendant, il y a un pas encore. Parce qu'il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, il a dit, hein. C'est pas que j'ai déjà atteint le but, c'est pas que j'ai déjà atteint la perfection. C'est ce que ça veut dire, la perfection. Quand on parle de perfection en ce qui nous concerne, ça veut dire que le plan parfait de Dieu, de manière très sommaire, doit s'accomplir. La perfection, elle est pour toi, elle est pour nous tous. Non pas être parfait comme Christ, mais le plan parfait de Dieu peut et doit s'accomplir pour toi. Ça veut dire que Dieu a un projet et il va s'accomplir, il doit s'accomplir parfaitement. Et c'est pour ça que Paul, d'ailleurs, dit à la fin de sa vie, ben j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat. Donc, le plan parfait de Dieu s'est accompli pour moi. J'ai fait ce que je devais faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait des erreurs. Non. Ça ne veut pas dire qu'on ne chute pas parfois, etc. Non. Ce n'est pas ça, parce qu'on n'est pas parfait. Mais pourtant, le plan parfait de Dieu peut et doit s'accomplir pour nous. Donc, voilà. Donc, il y a, comme je vous dis, il n'y a pas encore. Et puis, pendant ce pas encore, il faut qu'on se rappelle qu'il y a un but. Et le problème, c'est qu'on se trompe, ça vient, le malin, et puis la vie, enfin l'ennemi, ça vient, comme je l'ai dit, insidieusement, et puis on oublie le but, vous voyez ? Et je voudrais un peu reparler de ça, on oublie le but. Et alors, c'est là qu'on est attaqué, découragé, etc., parce qu'on oublie le but. Et on se dit, mais Seigneur, où sont tes promesses ? Mais mes promesses sont là. Mais c'est toi qui as oublié le but. C'est toi qui as oublié le but. C'est toi qui as oublié justement d'autres promesses qui vont avec celles que je t'ai faites. C'est toi qui as oublié la marche. C'est toi qui as oublié comment ça fonctionne. C'est toi qui as oublié que tu es dans un monde spirituel, déjà maintenant. Vous m'entendez ? Oh, hé ! Vous êtes dans un monde spirituel. Et donc, dans le monde spirituel, ce sont des lois et des principes spirituels. Oh, oh. Ce ne sont pas les règles de ce monde physique et aussi les règles spirituelles d'un monde corrompu. Non, non, non. Ce sont les règles, les principes spirituels du monde de Dieu, de Jésus-Christ, quoi. Enfin, voilà. Donc, alors le Seigneur dit, ben oui, il y a un but. Et Paul n'a pas oublié ce but-là. Et donc, après, il y a une fin. Mes chers amis, je ne sais pas comment on dit, ne vous trompez pas, s'il vous plaît. D'accord ? Ne vous trompez pas. N'oubliez pas le but. Je fais donc une petite parenthèse. Et pour vous dire que même si vous n'êtes pas... s'il n'y a pas foule aujourd'hui... Néanmoins, je suis content de vous voir dans la maison familiale. Parce que ici, c'est la maison familiale. L'église, c'est la maison familiale. Pourquoi je suis content de vous voir ici ? Parce que cette maison familiale, c'est là que Dieu fait toutes sortes de choses pour vous, pour nous et par nous. Pourquoi ? Parce que Dieu n'abandonne jamais, mais le plan de Dieu pour tous les chrétiens, c'est l'Église. Parce que l'Église, c'est l'assemblée, c'est le corps de Christ et c'est l'assemblée des chrétiens. C'est le fait, il faut s'assembler. Et moi, je vous encourage, j'encourage ceux peut-être qui entendront cette prédication qui malheureusement ne sont pas là, à ne pas oublier l'Église, pas parce qu'on est content d'être nombreux, même si c'est vrai qu'on est content quand on est beaucoup, mais surtout parce que nous devons nous assembler, parce que c'est le plan de Dieu. C'est là que Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, fait quelque chose. C'est un lieu de rafraîchissement, c'est un lieu de restauration, c'est un endroit où il va accomplir, comme je l'ai dit, toutes sortes de choses dans vos vies. Et évidemment, des choses qu'il faudra aller exporter à l'extérieur après. Mais c'est le lieu de rassemblement. Vous connaissez, vous, des entreprises ou des... Je ne sais pas quel exemple on peut prendre, même des clubs sportifs ou quoi que ce soit, ou même de belote, de poker, de n'importe quoi, où ils ne s'assemblent pas, où ils n'ont pas des jours de réunion, etc. Enfin, je veux dire, c'est impossible. Les choses ne peuvent pas être coordonnées, les choses ne peuvent pas avancer, les choses ne peuvent pas être décidées. Bon, bref. En tout cas, c'est l'endroit où Dieu rafraîchit. Et vraiment, je voudrais vous encourager à être fidèles aux réunions, pas seulement au culte. Vous voyez, donc c'est une petite parenthèse que je voulais faire. Et donc, je suis content de vous voir aujourd'hui pour cela, parce que mon désir est qu'aujourd'hui, vous retourniez, et je pense certainement, plus que de le penser, j'en suis sûr, le désir du Seigneur aujourd'hui est simplement, mais terriblement, j'ai envie de dire fortement aussi, que vous rentriez chez vous rafraîchis, ressourcés et instruits de ce que l'Esprit veut vous apprendre. Amen. Vous avez entendu ? Ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est que vous rentriez chez vous rafraîchis, restauré, reconstruit donc, et instruit de ce qu'il a à vous dire, parce qu'il a quelque chose à vous dire aujourd'hui. Non, le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants, jamais. C'est même pire que ça. Dieu peut nous, littéralement, quand on l'abandonne et on le délaisse, il peut littéralement nous persécuter et nous poursuivre de son amour. Parce qu'il ne nous abandonne jamais. Non, il ne nous abandonne jamais. Mais l'Église, c'est quelque chose de primordial dans le plan de Dieu. Et donc, aujourd'hui, je voudrais que vous sortiez, le Seigneur voudrait que vous sortiez rafraîchis. Nous vivons, comme je l'ai dit, dès maintenant, dans ce monde spirituel. Je le rappelle donc, il nous faut en connaître les principes. Je vous ai souvent dit à ça, il faut qu'on connaître un bébé qui naît. Il ne connaît rien, il ne sait même pas saisir un objet, il ne sait rien, il ne sait pas... Il ne sait rien, 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 il ne connaît rien. Il arrive, il ne sait rien. Il ne sait pas qu'un objet tombe. Si lui, il lâchait un objet et l'objet volerait, ça ne le choquerait pas, ça n'est rien, il ne connaît rien. Tout pourrait aller de travers, ça ne lui dirait rien parce qu'il ne connaît rien. Mais il apprend les principes. Il voit les principes physiques. Et nous, je sais, je vous l'ai déjà dit, hein, je l'ai dit, je vais répéter des choses aujourd'hui, mais nous devons donc apprendre les choses du monde spirituel. Parce que comment le Seigneur va vous relever ? Parce que je peux vous dire, hein, on a chanté des chants tout à l'heure, et puis je peux vous le dire, le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Je peux vous le dire et vous encourager avec ça. Et c'est vrai, je te le dis, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Si même, la Bible dit, si tu l'abandonnes, si tu n'es pas fidèle, lui, il demeure fidèle. Jamais il ne t'abandonnera. Amen. Alors c'est vrai, amen. Et c'est réjouissant et alléluia. Et puis quoi ? Et puis quoi ? Je rentre chez moi, le même. Je rentre chez moi, je ne change rien. Je rentre chez moi, je n'ai rien compris, je n'ai pas tilté. Je rentre chez moi, je dors. Je rentre chez moi, je me soucie des choses matérielles, de ceci, de cela. Et non, Dieu ne t'abandonne pas. Non. Mais il y a des choses que tu n'as pas comprises, que tu n'as pas écoutées, que tu ne mets pas en application. À quoi va servir mon exhortation alors ? Vous voyez ? Alors, le but, ce n'est pas d'être dur et c'est pas toujours de comme je l'ai dit, je sais qu'il y a des choses qui parfois c'est quand on te dit lève-toi, enfin cours, etc. Comme je l'ai dit maintenant, allez, reprends la course. Paul dit je cours vers le but et toi tu es fatigué. Bon, je sais bien, on n'a pas des fois envie d'entendre ça. Mais c'est pourtant ce que le Seigneur dit. Mais il y a d'autres choses que je vais un peu étoffer ça, même si vous allez voir, je ne vais pas être très très long parce qu'on a déjà eu un culte chargé, mais je vais quand même néanmoins dire ce que j'ai, ces petites choses que j'ai préparées. Et donc mon but aujourd'hui, c'est de aussi de vous ouvrir l'esprit humblement, mais j'aimerais bien y arriver. J'aimerais vous ouvrir l'esprit sur deux principes spirituels que vous connaissez très bien parce que j'en ai déjà parlé, mais j'aimerais faire le lien entre les deux. D'accord ? Et je pense que ça doit vous aider parce que ouais. Savoir, excusez-moi, je le répète, mais vraiment, il faut que je le répète, hein. Savoir que vous vivez dans un monde spirituel. Vous êtes dans un monde spirituel. Vous devez en connaître les principes. Premier principe, c'est celui que je vous ai dit tout à l'heure. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. Je répète parce qu'il y a une petite distraction. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses dont vous avez besoin vous seront données en plus. Je ne cite même pas le verset, mais c'est parce que vous connaissez. D'accord ? Ça va ? On s'inquiète pour beaucoup de choses. La Bible dit que ce sont les païens qui recherchent ces choses, d'ailleurs. Ce n'est pas des choses mauvaises. Hein. Je ne parle pas des choses mauvaises. Dieu ne parle pas des choses mauvaises. Là, il parle du manger, du boire, de tout ce dont vous avez besoin. Besoin. Donc, c'est un besoin. Le Seigneur sait. Les païens le recherchent. Vous, vous devez d'abord chercher. C'est un principe du royaume. C'est un principe du monde spirituel. C'est qu'il faut d'abord chercher le royaume de Dieu. Ces choses-là, c'est par-dessus. C'est Dieu qui s'en occupe. Ce n'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu. Bon, bien sûr, il faut aller boulotter. Hein ? C'est comme cette histoire, finalement, que j'ai pris d'athlète. Ben, il a arrêté de s'entraîner, malin. Il a fait la fête. Il a mangé, il a grossi, il a pris du poids sur les 15 jours. Bon, vous voyez, bien sûr, il faut être intelligent, mais... C'est Dieu qui s'en occupe. Et puis le deuxième principe spirituel, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, c'est celui-ci. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Quel est le rapport entre les deux ? Eh bien, je vais vous le dire. La puissance de Dieu s'accomplit dans ta faiblesse. Et donc, si aujourd'hui, ces paroles qui disent « Reprends la course, cours vers le but, etc. Si, » si ça te fatigue, si ça te décourage... Sache qu'il y a une promesse, parce que c'est aussi une promesse, un principe spirituel, c'est une promesse aussi. C'est une promesse que si je vis ce principe spirituel, eh bien, il y a des conséquences, et des conséquences positives. Donc, la puissance, si tu es faible, tant mieux. Oui, tant mieux. Parce que Paul, il dit même, je ne peux pas rappeler tout, évidemment, parce que je... Voilà, mais... Paul dit même, je me réjouis plutôt de mes faiblesses, de mes tribulations, etc. Et pas des choses qui font de moi que je pourrais me vanter parce que j'ai été élevé au pied de Gamaliel, etc., etc. Non, mes faiblesses, je m'en réjouis parce que je sais que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. La puissance de Dieu ne s'accomplit pas dans le « m'as-tu vu » et dans « ouais, je m'amène comme moi, wow, là, je suis en forme ». La puissance de Dieu, mais Dieu, je vous l'ai dit, il n'est pas impressionné par tes... tu ne l'impressionnes pas, voilà. Tu peux faire ce que tu veux, tu ne l'impressionneras pas, jamais. Même si tu décides de jeûner tous les jours, même si tu décides de donner tout ton argent pour les pauvres, même si tu décides de donner ta vie en sacrifice sur le bûcher ou je ne sais pas quoi, tu n'impressionneras pas Dieu. Et en plus, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien, dit le texte. Bon, voilà, ça va ? Ok ? Alors, la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. Alors, Maïté, j'aimerais bien, pour vous expliquer le rapport entre les deux, vous afficher un grand verset. Voilà. Et j'aimerais, je vais faire une petite devinette, c'est la version, c'est une version français courant, d'accord ? Et j'aimerais vous poser la question, c'est une petite colle, si certains savent, connaissent la référence de ce verset-là. Je vais vous le lire, d'accord, en vitesse. Les choses dont vous avez besoin, qui sont la préoccupation des païens, vous seront données à vous qui cherchez d'abord le royaume de Dieu en persévérant, les yeux fixés sur le but, allant avec la force que vous avez et par la puissance de Dieu qui s'accomplit dans la faiblesse de ceux qui le servent, pas de ceux qui demandent mal dans le but de satisfaire leur convoitise. Vous pouvez me dire la référence de ce verset ? Non. 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 Non, non, je n'écoute même pas, non. Non, il n'existe pas parce que c'est un... ça s'appelle un attrape-nigaud et les nigauds de service, c'est vous. Bon, pardon. Non, je rigole, hein, vous n'êtes pas... Voilà. En fait, vous l'avez compris, ce verset-là, comme ça, n'existe pas. Mais moi, j'ai fait une grande phrase avec plusieurs versets, j'ai pris mon temps, et finalement, c'est toute une prédication avec plusieurs versets. Alors, je vais vous expliquer. Le but, on a parlé du but. Ça va ? Le but, c'est Christ. Pas l'oublier. Seulement, on commence par les choses dont vous avez besoin. J'aurais dû le mettre en majuscule. Les choses dont vous avez besoin. Et qui sont la préoccupation des païens. Rappelons-nous de ça. Parce que, évidemment, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû prendre toutes les références de tous ces versets et vous les donner. Mais si vous voulez, si quelqu'un me le demande, je peux vous les donner pour la fois prochaine. Si vous voulez faire les plus spirituels que moi et que n'importe qui ici, allez vérifier, c'est ce que je vous dis, juste faites-le. Bon, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, ces choses-là, qui sont la préoccupation des païens, c'est-à-dire que le païen, il se préoccupe de quoi ? De ce que la société, d'ailleurs, nous enseigne, c'est pour ça que j'aime tant ce verset Romains 12, 2, d'accord, qui dit « Ne vous soumettez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » D'accord ? Eh bien, ces choses-là dont vous avez besoin, ce sont toutes... Enfin, ce sont toutes les choses dont vous avez besoin, quoi. L'amour, manger, dormir, être aimé, encore une fois, pardon, des sous, être vêtu, des chaussures, etc., etc. Et d'autres choses, tout ce dont vous avez besoin, le Seigneur dit dans ce verset que je n'ai pas évidemment cité là, il sait que vous en avez besoin et vous les aurez par-dessus si vous cherchez le royaume de Dieu. Et donc, la société vous dit, et même on voit ça sur Facebook, et même attention, je suis attentif à Facebook et aux bêtises que les chrétiens mettent dessus, hein, des fois. On dit, pense à toi maintenant, il faut que tu penses à toi. Il est temps que tu penses un peu à toi, tu as beaucoup donné pour les autres. C'est quoi cette bêtise-là ? Vous avez déjà mis ça ? Attention à ce que vous mettez, parce que je vois, enfin, je ne passe pas mon temps, des fois je ne le fais pas exprès, parce que je ne passe pas mon temps sur Facebook. Mais non, ce n'est pas vrai ! Ce n'est pas vrai ! Le principe biblique, c'est le contraire. D'accord ? C'est le contraire. Donc, bref, toutes ces choses-là, c'est la préoccupation des païens, ok ? Ce n'est pas le but. Elles vous seront données à vous qui cherchez d'abord le royaume de Dieu. Donc, ce qui veut dire que ça ne doit pas être vos préoccupations. Et donc, comme je vous l'ai dit, souvent l'ennemi, et même la vie, hein, insidieusement, donc ça veut dire de manière trompeuse, de manière sournoise, reprend le dessus et on commence à s'inquiéter de plein de choses et on commence à se décourager et on commence à se dire « Mais Seigneur, tu m'as abandonné, mais tu vois, ça ne va pas. Mais Seigneur, tu vois, il y a mon compte en banque, tu vois, et tout ça. Mais, et puis le Seigneur te dit « Mais eh oh, t'as à manger ?» Et tu auras encore à manger demain, et puis encore d'autres choses qui s'ajoutent. Et puis on s'inquiète, et puis « Oh, Seigneur, ne répond pas, les choses ne changent pas, etc. etc. » Mais on ne réalise même pas que, des fois, on ne réalise même pas, j'ai envie de dire, que tout va bien. Enfin, en tout cas, le Seigneur, et que le Seigneur maîtrise. Et puis que des fois, on a des épreuves aussi, soit. Mais voilà. Mais Dieu maîtrise. On oublie le but. D'accord ? Vous comprenez ? Ça arrive comme ça. Et puis, on est découragé. Mais pourtant, Dieu dit que vous devez chercher le royaume de Dieu. Et ces choses-là, vous ne devez pas vous tracasser. Même si je n'ai pas à manger demain, enfin, il n'y a rien de prévu, je mangerai. C'est pas facile, hein, je sais bien. Vous croyez que je suis différent de vous ? Non, je ne suis pas différent. Et puis, la persévérance, évidemment, parce que c'est la persévérance, c'est ça. D'accord ? Elles vous seront données parce que vous allez persévérer, parce que, évidemment, chercher le royaume de Dieu, ça signifie que je ne cherche pas. Quelqu'un qui cherche. Est-ce qu'on peut chercher une fraction de seconde ? Enfin, je veux dire, il y a forcément une notion de temps dans chercher. Donc, il y a la persévérance. OK ? Donc, je continue. Les yeux fixés vers le but, Jésus-Christ, le service, l'engagement, ma foi, la présence de Dieu, etc. Allant avec la force que vous avez, et aussi, mais après on va le dire après ça va. Allant avec la force que vous avez. C'est une petite parenthèse, si on veut dire, dans la phrase, mais Dieu n'a pas dit « va avec la force » que tu n'as pas. J'en ai parlé. Je répète des prédications que j'ai faites. Dieu n'a pas dit « va avec la force que tu n'as pas, débrouille-toi, cours, sois le premier. » Non, il dit « va avec la force que tu as. » C'est tout. Ne te demande pas plus. C'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. Alors, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu stresses comme ça? Dieu ne te demande pas d'être fort. Jamais Dieu ne te demande d'être fort. Jamais. Il n'y a pas besoin de ça. Il te demande juste d'aller, de continuer avec la force que tu as. Et donc, les yeux fixés sur le but, allant avec la force que nous avons, par aussi, donc j'ai la force que j'ai, que Dieu me donne, mais aussi je marche par la puissance de Dieu qui s'accomplit dans la faiblesse. J'arrête là. Donc, la puissance de Dieu, vous pouvez noter la phrase, comme ça vous réfléchirez à chaque partie, si vous voulez. Mais la puissance de Dieu, donc, s'accomplira dans la faiblesse. C'est-à-dire que tu es faible. Tu te dis, oh, c'est pas possible, je suis faible. Non, je ne peux pas. Oh, je ne peux pas parler, je ne peux pas évangéliser. Imaginez Cécile qui n'évangélise plus dans son taxi, par exemple. Parce qu'elle, je sais qu'elle le fait. Elle dit non, je n'en peux plus, je ne vais plus évangéliser dans mon taxi, mais parce que je me sens tellement fatigué. Mais ce serait un non-sens. Et vous, peut-être, c'est autre chose. Oh, je ne peux plus, je suis trop fatigué. Oui, je sais, là, c'est fait pour supporter la Sainte-Seine, pas mon poids. Alors, voyez, bon, soyez pas distrait. Et c'est comme ça que ça se passe. Je n'en peux plus. Non, je ne vais pas faire ça. Non, je ne peux pas faire ça. Non, je ne peux plus. Mais la puissance de Dieu s'accomplit dans ta faiblesse. Ça veut dire, je vais vous expliquer ce que c'est la faiblesse, ça veut dire c'est être incapable de faire quelque chose. C'est ça, être on ne sait pas, on se sent incapable. Quoi. Enfin bon, voilà, je ne vais pas tout vous réexpliquer. Eh bien, dans cette faiblesse, la puissance de Dieu s'accomplit. Mais elle s'accomplit dans la faiblesse de ceux qui le servent. Pas de ceux qui demandent mal, dira Jacques, parce qu'on passe. Pas dans. La faiblesse ne s'accomplit pas. Pardon, excusez-moi, oula. Revenez, je me suis trompé. La puissance de Dieu ne s'accomplit pas dans la faiblesse de ceux qui demandent mal dans le but de satisfaire leur convoitise. Vous me suivez? Quand l'ennemi arrive là, et puis que la vie reprend le dessus, on est inquiété par plein de choses de la vie de tous les jours. Par les plaisirs de la vie, mais aussi par des choses dont nous avons besoin, donc qui sont nécessaires et que Dieu connaît. Eh bien, quand nous sommes visités par ces choses-là, si nous croyons que la puissance de Dieu va s'accomplir pour obtenir les choses dont on a besoin, c'est pas ça qu'il est écrit, non. La puissance de Dieu, vous me suivez toujours ? La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse de ceux qui le servent. Ça veut dire que la puissance de Dieu s'accomplit pour le service, pour sa gloire. Et pendant que tu sers Dieu, et pendant que la puissance de Dieu s'accomplit, se manifeste, peut-être pas tout de suite, peut-être même que tu ne la sens pas, mais il n'y a pas besoin de la sentir. Quand tu as rendu faiblement témoignage à quelqu'un, Il y a des gens, bah je reprends Cécile, excuse-moi, je t'en veux aujourd'hui Cécile, mais tu ne sais même pas peut-être le nombre de gens qui ont été sauvés, simplement parce que tu leur as parlé de Dieu, qui sont peut-être dans une église maintenant, ou qui sont, on ne le sait pas. Et donc la puissance de Dieu s'est accomplie au travers de ta faiblesse. Enfin, je dis, tu étais peut-être très motivé à ce moment-là, mais bon, voilà, on se comprend, mais c'était quand même, on est quand même faible. Et voilà, peut-être aussi que cette puissance, on ne la sent pas, il ne faut pas tout le temps sentir, mais c'est promis. C'est promis, c'est une promesse. Je vous le promets, la puissance de Dieu s'accomplit dans ta faiblesse. Mais ce n'est pas dans le but de satisfaire tes convoitises. Vous voyez comme on tourne en rond. Satisfaire nos convoitises. Vous priez mal, vous demandez mal, dit Jacques, dans le but de satisfaire, et vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Et voilà. D'accord ? On peut le laisser afficher si vous voulez. C'est pas... Je ne vais pas être fier de mon verset, hein, c'est pas mon verset, c'est juste un truc à condenser, quoi. Alors, soyons logiques, s'il vous plaît. C'est pour que vous retourniez, comme je vous l'ai dit, vous soyez encouragés, rafraîchis, tout ce que vous voulez, mais que vous retourniez avec quelque chose quand même de solide, simple mais solide. La puissance de Dieu ne s'accomplit pas dans la faiblesse de ceux qui ne croient pas, n'est-ce pas ? Vous serez d'accord avec moi, non ? C'est logique ce que je dis. Ceux qui ne croient pas, est-ce que la puissance de Dieu s'accomplit dans leur faiblesse ? Non ! Vous voyez ? Alors, on va plus loin. La puissance de Dieu, est-ce qu'elle s'accomplit dans la faiblesse de ceux qui abandonnent la foi ? Non ! Parce que, non ! Alors, Dieu ne les abandonne pas. Dieu les poursuit de son amour. Dieu les relève, mais la puissance de Dieu ne s'accomplit pas dans cette faiblesse qui abandonne, qui a baissé les bras, qui arrête. Ça va, vous saisissez ? Ok ? J'ai mal expliqué ? Oui, mais non, Dieu relève, j'explique convenablement, j'essaye d'expliquer convenablement. Dieu relève, mais si tu décides d'abandonner, c'est ça, écoutez, alors je vais nuancer comme ça. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse de ceux qui sont découragés. La puissance de Dieu ne s'accomplit pas dans la faiblesse de ceux qui abandonnent. Il y a une différence. Vous comprenez mieux maintenant ? Si je dis, moi je ne vais plus à l'église, tu ne verras pas la puissance de Dieu s'accomplir dans ta faiblesse. Enfin, je veux dire, il va y avoir un processus, oui, d'accord, ok, c'est pas ça. Oui, l'amour de Dieu demeure. Oui, Dieu va courir après toi. Oui, Dieu va te relever. Mais c'est quand tu vas reprendre la course que la puissance de Dieu va s'accomplir. Voilà, la course, même avec les forces que tu as, même tout doucement, même en pleurant, même en sanglotant, mais jamais en disant j'abandonne. Jamais en baissant. Enfin, si tu baisses complètement les bras, la puissance de Dieu ne va pas s'accomplir. C'est ça que je veux dire. Et donc... j'irai plus loin, la puissance de Dieu ne s'accomplit pas dans la faiblesse de ceux qui dorment, puisqu'ils sont en train de dormir. C'est logique, non ? Si tu dors, le réveil sonne, donc le réveil sonne, tu ne te lèves pas. Donc je dis ceci, la puissance de Dieu ne s'accomplit pas dans la vie de ceux qui ne se lèvent pas au bruit du réveil. Comment ? C'est logique ! Voilà, qui n'ont pas d'huile dans leur lampe. Voilà, si tu ne te lèves pas au bruit du réveil, avec le peu de force que tu as pour aller, la puissance de Dieu ne se manifeste pas non plus. D'accord ? C'est un encouragement que je vous donne là. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas besoin d'être fort. Je l'ai déjà dit, mais il n'y a pas besoin d'être fort. Mais il ne faut pas abandonner. Parce que la puissance de Dieu va se manifester pour sa gloire et lui va pourvoir à tous tes besoins, etc., etc. Pas seulement besoin matériel, besoin d'amour, tout ce que vous voulez. Mais il ne faut pas oublier l'objectif. C'est ça que je vous dis. Jamais oublier. Nous sommes dans un monde spirituel. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Comment je dois le dire ? Parce que j'aimerais bien que vous le reteniez vraiment. Nous sommes dans un monde spirituel. Donc, tu ne dois jamais oublier que si tu crois en Dieu, alors tu vis pour Dieu. Parce que tu as été racheté à un grand prix. Si tu crois en Dieu, tu vis pour Dieu. Et tu verras les choses spirituelles s'accomplir et les choses du monde spirituel s'accomplir si tu vis selon les principes de ce monde dans lequel tu vis. C'est tout ce que je dis, rien d'autre. Et j'ai essayé, tant bien que mal, de vous l'expliquer. voyez ? Alors oui, vous pouvez être encouragé. Oui, l'amour de Dieu demeure. Oui, Dieu n'abandonne jamais. Mais si je vis hors de ces principes, je ne suis pas dans cette zone d'action de Dieu. Si je me retire de la zone d'action de Dieu, vous voyez, et que je vais ailleurs. Vous voyez ? C'est une autre façon de le dire. C'est ça que je vous dis. Rappelez-vous le but. La puissance de Dieu, c'est pour ça que je l'ai dit ici, vous voyez que j'ai dit, la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse de ceux qui le servent. Avec la force qu'ils ont, mais de ceux qui le servent. La puissance de Dieu ne s'accomplit pas dans le but de satisfaire nos désirs matériels et nos convoitises. Je le répète, j'aurais dû l'afficher. Vous m'écoutez ? J'ai presque fini. La puissance de Dieu ne s'accomplit pas dans le but de satisfaire nos convoitises et nos désirs matériels. Et c'est pour ça qu'on est découragé. C'est parce qu'à un moment donné, on est rattrapé par la vie, voyez, par la vie de tous les jours. Et on a plus les regards fixés, on n'a plus les regards de foi, on n'a plus les regards fixés sur le Christ, mais on a les regards fixés sur nos pieds, sur notre nombril, sur le sol, sur les événements qui nous entourent, etc. Vous voyez ? Et alors là, on risque non seulement de ne plus courir, comme j'ai dit au début de la prédication, de ne plus courir afin de remporter le prix, hein ? Courir avec la force qu'on a, je vous rassure toujours, vous voyez, je suis gentil. Et on risque de ne pas pouvoir dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Or, nous tous qui sommes ici, vous tous qui êtes ici, vous êtes appelés. J'ai même envie de dire, j'aime pas ce mot-là, mais programmé, mais c'est pas ça, on n'est pas programmé, on n'est pas des pantins hein, avec Dieu, mais vous êtes prédestinés, voilà, je sais pas comment dire, je trouve pas le mot, à dire, à la fin de votre vie, j'ai combattu le bon combat. Tous ici, tous. Je ne dis pas ceux qui ont été des prédicateurs, apôtres, grands évangélistes ou je ne sais pas quoi. Non. Dieu Stéphane l'a dit, la main, la cuisse, enfin, tout ce que vous voulez, il y a des petits doigts, il y a tout dans un corps. Il ne faut pas que des évangélistes, il ne faut pas que... D'accord ? Vous êtes tous destinés à ça, à dire, mais vous risquez, si vous manquez le but, et vous savez que manquer le but, c'est péché, c'est ça que ça veut dire. Donc, vous risquez de ne pas voir ces choses-là, enfin je veux dire de ne pas dire un jour, d'être à la fin de votre vie et d'avoir des regrets, tout simplement parce que l'ennemi aura réussi à détourner vos regards de Christ et de les ramener vers les choses qu'on voit. Alors vous voyez, je reviens encore à une autre prédication que j'ai faite, vous voyez, c'est la vérité c'est quoi ? C'est pas ce que je vois, c'est qu'une partie de la vérité, et parfois même, c'est même du mensonge ce que je vois. La vérité, ce n'est pas ce que je vois, c'est ce que Dieu dit. Et c'est ce qu'il y a dans le monde spirituel. Vous voyez comme tout se rejoint, finalement, en quelques versets, en deux phrases, tout se rejoint. Voilà. Et donc, la puissance de Dieu s'accomplit, oui, dans la faiblesse, mais pas de ceux qui recherchent les convoitises. Et je vous dis ça selon un autre principe spirituel, un troisième principe spirituel qui dit ceci, c'est que celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Problème de sacrum. Que celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de Jésus la retrouvera. Voilà. Ça c'est un autre principe spirituel qui va très très bien avec les deux autres. Alors, est-ce que vous avez déjà lu ceci ? Cherchez les choses dont vous avez besoin en honorant Dieu. Vous avez déjà lu ça ? Cherchez les choses dont vous avez besoin en honorant Dieu. Non, hein ? Ah, il y a des frères. Ça n'existe pas ! Ah, ça va, il y en a qui me suivent. Vous voyez ? Le problème, c'est que certains croient avoir lu ça. Cherchez les choses dont vous avez besoin en honorant Dieu, le dimanche surtout. Vous voyez ? Mais ce n'est pas écrit. Ce qui est écrit, c'est oui, une partie de mon verset, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. D'accord ? Alors Dieu demeure fidèle si vous êtes infidèle. Ne vous inquiétez pas, c'est une promesse. Mais néanmoins, soyons sérieux quand on dit oui, la puissance de Dieu s'accomplit même quand on abandonne. Ou quoi. Non. Ou alors, il n'y a pas d'avantage à persévérer. Il n'y aurait pas d'avantage à être fidèle alors. D'accord ? Alors je conclue. Conclusion. On a choisi un jour de donner sa vie à Christ, c'est ce qu'on a dit. Et puis, comme je vous l'ai dit, les soucis de la vie arrivent. Insidieusement, je le répète. L'égocentrisme prend la place. Donc, l'égocentrisme, c'est centré sur nous-mêmes, tout simplement. Puis on vit pour soi-même. Et après, on est découragé. Petit résumé, en conclusion. Découragé de ne pas avoir ce qu'on désire. C'est ça le problème. Découragé de ne pas avoir ce qu'on désire. Alors que le but de Dieu, c'est pas qu'on ait ce qu'on désire, c'est pas le but, il nous donne, mais c'est pas son but. Et on est découragé de ne pas avoir ce qu'on désire, on baisse les bras, et comme je vous le dis, on se trompe de but. Je vous dis juste ceci. Redeviens quelqu'un qui est passionné de Christ. Ok ? Redeviens quelqu'un, s'il te plaît, passionné de Christ. Vis pour lui, parce qu'il t'a donné sa vie. Tu te lèves le matin pour lui, tu te couches en pensant à lui, tu fais ton programme pour lui, tu vis pour Christ, redeviens quelqu'un qui vit pour Christ. C'est vraiment mon encouragement ce matin. Redeviens quelqu'un qui a la passion pour le Seigneur. Amen. Passionné de Christ. Ok ? Que Dieu vous bénisse.